Contre-son, un podcast indiscipliné orchestré par la revue Contre-temps pour la plateforme Spectre, un podcast que vous pouvez retrouver sur spectremedia.org et sur vos plateformes d'écoute préférées. Tous les mois, une de nos équipes propose une analyse critique sous un angle historique, philosophique, géographique ou sociologique, mais toujours politique. Contre-son, c'est un podcast pour celles et ceux qui veulent mieux comprendre le monde contemporain et inventer ensemble celui qu'il nous faut construire d'urgence. Réparons les transistors de la transition, montons le son, Contre-temps prend l'antenne, c'est Contre-son. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode du podcast Contre-son, animé par la revue Contre-temps pour la plateforme Spectre, disponible sur spectremedia.org et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Un épisode consacré au livre « Sociologie de la race » paru récemment aux éditions Armand Collin et dont nous recevons les deux autrices, Solène Brun et Claire Kosker. Dans cette deuxième partie, on revient sur les apports de Frantz Fanon et de Colette Guillaumin, notamment autour des concepts de racialisation et de racisation. On interroge également les manières concrètes de mener des recherches sur la race en sociologie, que ce soit d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire sur la base de statistiques, ou sur un plan qualitatif, notamment à travers des entretiens ou des recherches de terrain, des enquêtes de terrain, des enquêtes ethnographiques. On évoque aussi les croisements, les échanges et les emprunts, voire les imbrications entre les mouvements sociaux, ici notamment les mouvements antiracistes, et la recherche sur les rapports sociaux de race. Et puis enfin, on soulève les enjeux politiques des recherches sociologiques sur la race en France, ici et maintenant. Ah, vous êtes déjà revenu sur le fait que la race n'est pas un concept strictement importé des États-Unis en France, qu'il y a non seulement une histoire de la race et de la racialisation qui est française, mais aussi une histoire de la sociologie de la race qui également trouve ses racines ou peut trouver une partie de ses racines en France. Alors à travers notamment deux figures, pour évidemment résumer, l'histoire est plus compliquée que ça, mais il y a cette figure de Colette Guillaumin que vous avez déjà évoquée, vous pouvez y revenir, il n'y a pas de souci, et il y a cette autre figure qui est celle de Frantz Fanon, notamment autour d'un livre, mais pas, c'est pas le seul, hein, Peau noire, masque blanc. Et ces deux auteurs et autrices sont associés notamment aux concepts respectifs de racialisation et de racisation. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur ces deux figures, notamment Frantz Fanon qui n'a pas été ou peu évoqué, et puis sur ces deux concepts, qu'est-ce qu'ils désignent? Est-ce qu'ils désignent des choses distinctes? Est-ce qu'ils permettent de voir peut-être la race ou les rapports sociaux de race sous un angle différent?
Ben ouais, on parle de Fanon dans le livre. On parle notamment, donc tu l'as dit, hein, de Peau noire, masque blanc, et en particulier de ce chapitre qui s'appelle L'expérience vécue du noir, qui est le chapitre 5 de Peau noire, masque blanc, et qui, selon nous, comporte vraiment des intuitions assez incroyables sur cette idée de construction sociale de la race, parce qu'il a vraiment, dans ce chapitre, il développe cette idée que il n'y a pas de noir s'il n'y a pas à un moment des blancs pour les désigner comme noirs. Et ça, c'est très, très fort. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que lui, il met en mots, en plus de manière très belle. Cette idée que c'est dans l'assignation, fondamentalement, qu'on devient noir. C'est aussi quelque chose, c'est une expérience, je crois, assez partagée par pas mal d'Antillais, en fait. D'Antillais qui ne sont pas forcément des noirs foncés et qui n'étaient pas forcément noirs quand ils étaient aux Antilles et qui, en arrivant en France hexagonale, deviennent noirs. Et du coup, ils découvrent quelque part qu'ils sont noirs. Et ça, je crois que ça a été une expérience pour un certain nombre de personnes antillaises, hein, de se découvrir noir dans le regard de l'autre. Et je crois que là, on a vraiment peut-être le début du développement de ce que c'est cette idée de racialisation, c'est-à-dire le fait d'assigner un individu, alors là en l'occurrence un individu, mais ça peut être un groupe entier, à une position raciale, et en l'assignant, c'est aussi évidemment le réduire à cette position raciale, c'est aussi évidemment une expérience de déshumanisation de l'autre, c'est vraiment ce fait de se voir tout entièrement réduit à son appartenance à un groupe, et en l'occurrence à un groupe subalterne. Et donc c'est vrai que là-dedans, il y a pour nous quelque chose qui va être tout à fait fondamental ensuite pour les sciences sociales qui vont se saisir de cette question et qui vont penser la race. Alors même que, en l'occurrence, lui, il vient pas des sciences sociales. Il est psychiatre, il est surtout très influencé par la philosophie, mais par cette philosophie de l'expérience vécue, justement. Ce qui, voilà, qu'on appelle le courant de la phénoménologie, mais donc cette idée que y a une expérience des choses qui est fondamentale et qui forme les choses elles-mêmes. Et donc, Il y a ce chapitre chez Fanon, dans Peau noire, masque blanc, qui date des années 50. Et ensuite, on trouve chez lui, c'est dans les damnés de la Terre, donc tout début des années 60, le terme de racialisation. Il semblerait que c'est la première fois qu'on trouve l'occurrence du terme. Mais par contre, il le développe pas, il forge le terme, et c'est déjà beaucoup. Parce que ça dit à quel point il pense la formation raciale comme un processus. C'est pour ça, du coup, qu'il forme ce néologisme. Mais par contre, il ne développe pas le concept en lui-même. On ne trouve pas de développement chez Fanon de ce qui sera ensuite fait plutôt par des sociologues britanniques, en l'occurrence. C'est-à-dire essayer de définir ce qu'on entend par racialisation.
Et chez Colette Guillaumin, effectivement, on trouve un autre terme, qui est celui de racisation. Et cette fois, la théorisation de ce terme, elle est très poussée, elle est très formalisée chez Colette Guillaumin. Alors, on aurait du mal à comparer terme à terme racisation chez Guillaumin et racialisation chez Fanon, parce que, comme Solène l'a dit, Fanon forge le terme. On ne peut pas le réduire, effectivement, simplement à un néologisme, mais il y a bien une idée conceptuelle très forte derrière chez Fanon. Mais elle n'est pas formalisée en tant que telle. Mais disons que la racialisation telle qu'on l'entend dans la littérature francophone actuellement, elle désigne deux choses, en fait. Elle désigne une dimension discursive qui est l'extension du domaine discursif de la race, c'est-à-dire le fait qu'on va, de façon croissante, parler en utilisant des référentiels raciaux, étendre en fait le domaine des significations de la race. Et elle a également une dimension qu'on peut considérer comme davantage pratique, c'est-à-dire la façon dont les positions sociales vont s'entrecroiser, se construire d'une dimension raciale, c'est-à-dire concrètement comment est-ce que des individus vont être assignés à une identité raciale, ou des groupes entiers vont être assignés à une identité ou à une position donc raciale. Alors que la racisation, c'est en fait quelque chose d'un petit peu plus précis, qui va désigner la relation spécifique entre un majoritaire et un minoritaire, donc le majoritaire que Colette Guillaumin appelle également le racisant, et le minoritaire qu'elle appelle également le racisé. Donc la racisation, c'est cette relation-là qui est par définition une relation asymétrique, une relation de domination. Et même s'il faut vraiment rendre justice à Colette Guillaumin, qui avait des intuitions plus que pionnières, mais qui avait plusieurs temps d'avance sur l'époque, elle insiste profondément sur le fait que dans cette relation, les deux termes sont importants, et qu'il est particulièrement important de retourner le regard vers le majoritaire pour comprendre l'entièreté de la relation sociale. Et ce qui demeure, c'est que le terme de racisation, il tend finalement à connoter le caractère racial de la position dominée uniquement. C'est-à-dire qu'on pense le racisé, on pense la race chez le racisé, la construction raciale de cette position-là. Mais de fait, enfin, du moins dans la façon dont ce terme a été saisi, pas simplement par la littérature scientifique d'ailleurs, mais aussi dans les mondes militants, on parle moins de racisant. Et on pense moins à la construction raciale du dominant et de ce pôle-là de la relation, domination. Donc c'est vrai que dans nos travaux personnels, on utilise davantage le terme de racialisation, notamment parce qu'on est toutes les deux attachées à rendre compte analytiquement de la construction de la blanchité. Et on utilise finalement davantage que racisé, on utilise l'autre terme que Guillaumin a utilisé, qui est celui de minoritaire, pour penser les positions dominées.
Et alors justement, dans vos recherches, il y a une question un peu presque méthodologique, si on veut, mais qui va sans doute un peu plus loin qu'une simple question de méthodologie. C'est savoir comment on s'y prend concrètement pour mobiliser les catégories de race dans des recherches. Alors peut-être qu'on peut distinguer deux types de recherches, les recherches quantitatives et les recherches qualitatives. Comment on fait dans le cadre d'enquêtes quantitatives, ce qui nous renvoie à la question ou débat sur les statistiques dites ethniques. Alors, en essayant de le positionner ici dans le contexte français, qui est un peu particulier de ce point de vue-là, mais en fait, en réalité, tous les contextes nationaux sont sans doute très particuliers parce que les catégorisations raciales sont très diverses entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Brésil, etc., et puis la France, par exemple. Et puis, il y a la question de comment on fait pour, dans le cadre d'enquêtes de terrain, notamment pour, par exemple, observer la race, comment on dit la race dans le cadre d'observations de terrain, dites ethnographiques, ou comment on introduit des questions sur la race dans le cadre d'entretiens, par exemple, avec des enquêtés. Alors, vous, à partir de vos expériences, qu'est-ce que vous pourriez dire, justement, à des étudiants ou étudiantes en sociologie ou en sciences sociales, des gens qui veulent faire des recherches sur la race, ou des gens qui, simplement, s'intéressent à ça? Comment on fait pour opérationnaliser en quelque sorte ce questionnement sur les rapports sociaux de race?
On peut peut-être commencer par la question des enquêtes quantitatives, pour laquelle il y a plusieurs solutions. Et la première chose qu'il faut rappeler, c'est que sans doute aucune solution n'est mauvaise en soi, mais chaque solution ouvre un point de vue différent et donnera des résultats également potentiellement différents sur la distribution des grandes régularités sociales qu'on va associer à une position raciale donnée. Alors, la première alternative, c'est est-ce qu'on utilise des catégories raciales explicites ou pas ? Sachant que l'avantage d'utiliser des catégories raciales explicites, c'est qu'on nomme les effets sociaux du racisme plus directement, on appelle les choses par leur nom, et on n'utilise pas finalement une catégorie de médiation pour désigner ce phénomène social. L'inconvénient, c'est qu'on s'expose au risque, qui a souvent été pointé, de reproduire des catégories qui ne sont pas forcément, par ailleurs, celles que les individus utiliseraient dans leur vie quotidienne. Donc, soit on utilise... si on ne veut pas utiliser des catégories raciales explicites, on peut utiliser des catégories par procuration.
C'est ce que tu disais, des catégories de médiation, c'est ça?
Oui, ou on a utilisé proxy. Le terme anglais, on parle de proxy, mais c'est vrai que donc des catégories par procuration ou par médiation, effectivement. Ce qui se fait le plus souvent, c'est d'utiliser l'origine nationale, qui peut être combinée ou pas à la religion, d'ailleurs. Et ça permet de rendre compte de façon assez solide de phénomènes de discrimination qu'on peut ensuite interpréter comme raciales, bien évidemment. Le problème, c'est aussi que on est dans des sociétés où les migrations ont déjà une certaine histoire et qu'il va falloir commencer à remonter à un certain nombre de générations avant, peut-être à la troisième génération déjà, troisième ou quatrième même, pour rendre compte de ces effets-là, ce qui pose toute une série de problèmes. Et interroge aussi quand même sur la pertinence de ces catégories par procuration, parce que si le lien à la migration devient aussi ténu, est-ce que c'est vraiment lui qui est causalement intéressant dans ces effets-là ? Ensuite, on peut décider d'utiliser des catégories raciales explicites. Et là, il y a deux solutions, deux solutions principales, soit l'auto-identification, avec une catégorie ouverte ou pas, mais qui risque de compliquer le travail des enquêteurs, ou du moins des analystes derrière. Donc, par exemple, proposer une catégorie blanche, une catégorie arabo-berbère, une catégorie noire, etc. Ou alors que l'identification de la personne soit opérée par l'enquêteur lui-même dans le cadre des enquêtes qui sont conduites par questionnaire en face à face. Sachant que là, ce que ça va dire davantage, c'est moins le point de vue de la personne elle-même sur la façon dont elle s'identifie, ça dit moins finalement sur les auto-identifications que sur la probabilité de lecture sociale de cette personne, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va être perçue par autrui dans la société. Mais là encore, c'est une réponse un peu courte et on pourrait se pencher un peu plus en avant sur ce que ça va engendrer en termes de difficultés, notamment parce que tous les enquêteurs ne vont pas forcément avoir la même catégorisation d'une personne donnée selon leur propre histoire, leur propre socialisation, dont on parlait tout à l'heure, leur propre position raciale. Et une autre difficulté, enfin, mais qui est... qui s'ajoute à ces deux alternatives que je viens de mentionner, c'est la question finalement de la contrainte au nationalisme méthodologique. C'est-à-dire que les catégories raciales, elles sont quand même assez spécifiques, souvent spécifiques à des contextes nationaux, parfois elles sont encore plus spécifiques que ça. Et si on veut se lancer dans de grandes enquêtes de comparaison internationale, là ça devient très compliqué. Il y a une anecdote à ce sujet qui était assez intéressante et qui est mentionnée par Mara Loveman en ouverture de son livre qui s'appelle National Colors, qui porte notamment d'ailleurs sur les recensements et les catégories raciales dans les recensements en Amérique latine. Et donc elle parle de Halle Berry, donc l'actrice qui a notamment joué Catwoman, en présentant cette actrice. Qui est présenté dans un séminaire scientifique qui se conduit au Brésil ou alors où il y a plusieurs personnes brésiliennes dans l'assistance. Et donc Halle Berry est présentée comme noire et les personnes brésiliennes qui sont dans la salle disent mais à quelle heure elle est noire? Elle est jamais noire, Halle Berry. Elle serait jamais perçue comme noire au Brésil. Donc ça pose aussi cette question-là, de quelle comparabilité est possible aussi si on essaie de penser les enquêtes internationales.
Il y a quand même une troisième possibilité qui a été explorée par quelques collègues sur les enquêtes quanti, peut-être pour finir là-dessus, c'est de poser deux questions en fait aux gens. Et moi, je me dis que c'est peut-être là qu'on aurait les réponses les plus intéressantes, c'est-à-dire demander à la fois aux gens, en gros, à quel groupe ils se considèrent appartenir. Et donc là, on propose des groupes et je pense que c'est possible de proposer des groupes et aussi de laisser la possibilité aux gens de dire aucun de ces groupes ou autre groupe, quoi. Mais de rajouter aussi une question en demandant aux gens comment ils pensent qu'ils sont perçus par les autres. Et je pense que pas mal de gens, en fait, savent répondre à cette question. Ils savent comment, la plupart du temps, on les perçoit. Et là, je trouve que si on combine ces deux questions avec, en plus des questions sur l'histoire migratoire des individus, leur pays de naissance, leur nationalité, là, on va commencer à avoir des choses, à mon avis, très intéressantes pour justement comprendre qui est positionné racialement où et comment les gens s'auto-identifient, est-ce que ça coïncide tout le temps ou pas avec la manière dont ils pensent qu'ils sont perçus par les autres. Et là, je pense qu'il y a des choses sur les mécanismes de racialisation qu'on pourrait avoir qui seraient très intéressantes. Sur les enquêtes, plutôt du coup de type qualitatif, donc sur les ethnographies et tout, moi souvent ce que je dis aux étudiants, c'est que la première chose à faire, c'est qu'il faut se départir de l'idée que la race, ce serait une identité. Ou qu'en tout cas, ce serait nous, notre rôle ou notre position en tant que sociologue, de dire la vérité sur l'identité des gens. Parce qu'en fait, un bon exemple, je trouve, c'est une enquête qui a été faite il y a assez longtemps maintenant, par notamment Fabien Jobard et René Lévy sur les contrôles aux faciès à Paris, et où eux, en fait, ils avaient un protocole hyper ambitieux, mais qui marche assez bien, où en fait, ils se sont postés à 5 endroits différents dans Paris. Ils ont essayé, en fait, le but était d'essayer de caractériser racialement la population qui fréquentait chaque lieu. Donc, mettons, ils se sont mis à Châtelet, Fontaine des Innocents, à Paris. Et pendant plusieurs jours, ils ont fait des observations où ils catégorisaient les gens, qui étaient tous les gens à Fontaine des Innocents, selon 5 grandes catégories raciales assez arbitraires, qui étaient, blanc, noir, maghrébin, indo-pakistanais, et je ne sais plus quelle est la cinquième, et asiatique sûrement, sous-entendu du coup asiatique de l'Est. Et du coup, il caractérisait la population qui fréquentait ce lieu-là. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils observaient les contrôles de police, et pareil, ils décrivaient, donc selon ces 5 catégories, les gens qui se faisaient contrôler. Et ensuite, ils regardaient si, en gros, il y avait une surreprésentation de certaines catégories raciales par rapport à la population de référence. Il n'y avait pas que des catégories raciales, évidemment. Ils contrôlaient par l'âge, par le type d'habit. Est-ce que les gens portaient des sacs ou pas? Est-ce que les personnes étaient visiblement des hommes ou des femmes, etc. Mais en fait, ce que je dis souvent aux étudiants quand je parle de cette enquête, c'est que, en réalité, là, ce processus de catégorisation, il est absolument externe. C'est-à-dire, c'est vraiment, en l'occurrence, les enquêtrices qui sont postées, qui vont même pas parler aux gens, qui connaissent pas leur nom, leur prénom, qui les ont pas entendu parler, qui juste les catégorisent visuellement. Mais en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles prétendent pas dire la vérité de l'identité de ces individus. Elles prétendent même pas que leur assignation va correspondre à la manière dont ces gens-là s'identifient. Mais le pari qui est fait par l'équipe de l'enquête, c'est que, en l'occurrence, les enquêtrices, si je me souviens bien, sont blanches. Et l'idée de dire, ben, statistiquement, il est très probable pour que notre manière à nous de catégoriser ces personnes-là soit la même que la police. Et comme nous, on s'intéresse au contrôle au faciès, bah, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement comment les gens eux-mêmes se sentent, se perçoivent, etc. Ce qui nous intéresse, c'est comment il est statistiquement probable que des policiers les perçoivent. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait justifié d'utiliser uniquement un truc d'assignation de l'extérieur. Et je trouve que cet exemple, il est pas mal parce qu'en fait, ce que je dis souvent, c'est que tout dépend en fait de la question de recherche qu'on se pose. Si on se pose des questions sur les mécanismes de discrimination, de contrôle au faciès, d'assignation par autrui, de comment son CV va être lu, etc., on peut en fait se contenter d'une assignation extérieure. Et tout en rendant très clair le fait que cette assignation extérieure-là, elle ne dit qu'une toute petite partie ce qu'est l'expérience sociale de la personne. Il est fort probable que, en gros, la manière dont on la catégorise soit la manière dont cette personne est catégorisée le plus souvent dans sa vie. Mais par contre, c'est aussi possible que cette personne ne se perçoive pas comme on la catégorise. Et par contre, bah, si on fait une enquête sur, justement, les modes d'identification de soi, sur les constructions identitaires et tout, bah, là, par contre, ça va valoir le coup d'aller demander aux gens comment eux ils se perçoivent et donc de reprendre leur catégorie à elle et eux, tout en disant par exemple si la personne nous dit ben moi je me perçois comme ça et que nous on se dit ah ben moi par exemple je l'aurais pas catégorisé comme ça, ben ça donne un matériau intéressant. Ça veut dire que ben probablement là il y a une espèce d'incongruence entre la manière dont la personne se définit et la manière dont il est probable qu'elle soit perçue par les autres au quotidien, et ça nous apprend des choses socialement. Mais en fait tout ça c'est aussi de dire, mais nous, on n'est pas là pour dire c'est quoi l'identité des gens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'autres choses. Et selon, justement, ce qui nous intéresse, ben, on va pouvoir adapter nos protocoles. Mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on se départit un peu de cette idée sur, je sais pas, la vérité de l'identité des gens, ben, on est aussi plus à l'aise à dire, ben, oui, bien sûr, là, on ne traite qu'une partie de l'information, ou évidemment que nos catégorisations, elles sont imparfaites, mais elles disent quand même quelque chose d'une réalité sociale.
Je voudrais qu'on aborde la question des mobilisations antiracistes ou des mobilisations autour de la race. De même que pour le genre, mais aussi pour la classe, on pourrait dire que les mouvements sociaux ont eu un rôle assez important, voire énorme, pour stimuler non seulement le désir de connaissance des rapports sociaux, mais aussi pour raffiner les catégories, les rendre plus rigoureuses, plus précises, plus tranchantes. D'ailleurs, vous parliez de Du Bois, mais Du Bois a été aussi une figure du militantisme noir aux États-Unis. Il a été président pendant assez longtemps du NAACP, une organisation antiraciste importante, assez institutionnelle, mais très importante aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle en particulier, qui existe toujours. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, une bonne partie des sciences sociales s'est construite dans un rapport fécond en fait, avec les luttes sociales. Du point de vue de la connaissance du racisme, des discriminations raciales, de l'histoire de l'esclavage, etc., en France, il est très clair qu'il y a eu un rapport entre les moments de politisation autour des questions d'oppression raciale, en gros au cours des années 2000, même s'il y a une histoire antérieure, évidemment. Il y a eu la naissance de mouvements antiracistes dans ces années 2000, de nouveaux mouvements antiracistes, disons, de nouvelles organisations, de nouveaux collectifs. La brigade antinégrophobie, la voix des Roms, le mouvement des indigènes de la République, etc. Il y a eu les révoltes dans les quartiers populaires en 2005. Et puis, de manière un peu concomitante historiquement, alors à voir quel lien avec, hein, mais il y a eu la montée de recherches, de travaux, d'enquêtes en sciences sociales beaucoup plus nombreux qu'auparavant autour de ces questions de discrimination, notamment d'expérience des discriminations ou de violences d'État, etc. Bon, est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur ce point des interactions, en quelque sorte, entre les mobilisations antiracistes et puis la recherche scientifique en France ou ailleurs sur la race, sur les discriminations raciales, etc.
C'est sûr que cette sociologie de la race, elle est marquée par les liens avec les mouvements sociaux et les mouvements sociaux antiracistes. Et tu l'as dit, c'est aussi le cas depuis le tout début. Hein. On parle, même si on en parle rapidement, mais d'un mouvement qui est un mouvement peut-être plus intellectuel, mais qui est très politique, le mouvement de la négritude en France, et de, du coup, comment aussi des auteurs et des autrices africains, caribéens en France vont participer à l'élaboration d'une pensée de l'émancipation noire qui est extrêmement féconde et qui va nourrir évidemment la production en sciences sociales. Mais il y a aussi, je sais pas, mais même quand on pense à Colette Guillaumin, hein, qui était très liée au mouvement féministe et qui du coup est liée à des mouvements sociaux et nourrit aussi sa pensée de ça. On rappelle aussi l'existence dès les années 70 de, par exemple, la coordination des femmes noires dans le mouvement féministe français. Donc vraiment, des premiers jalons de théorisation militante, disons, de ces questions qui vont influencer aussi la production scientifique. Mais c'est vrai que le tout début des années 2000 marque en France un tournant pour l'ensemble de la société, mais donc aussi un tournant pour la recherche. Et il y a, en fait, ces années, tu l'as dit, ça va être, il y a 2001, la loi Taubira, la séquence 2003-2004 autour du débat sur l'interdiction du port du voile à l'école, qui va être vraiment un moment extrêmement important aussi de politisation et de mouvements sociaux antiracistes sur une base anti-islamophobe. Il y a les révoltes urbaines des banlieues en 2005. Et c'est vrai que en parallèle de ça, on voit des nouvelles organisations se former sur un mode, sinon inédit, très minoritaire en tout cas, c'est-à-dire sur la base d'une revendication d'un « nous » minoritaire. Donc ça va être la création du CRAN en 2004, mais voilà, tu l'as dit, tu as cité des organisations militantes qui se forment à ce moment-là, évidemment le mouvement des indigènes de la République avec leur rappel qui sort en 2005, qui vont en fait créer un événement dans la société française. Et c'est vrai qu'on voit aussi que dans la recherche française, les révoltes de 2005 sont un mouvement fondateur. Et d'ailleurs, il y a ce livre qui est resté hyper important, beaucoup lu, édité par Didier et Eric Fassin, qui s'appelle « De la question sociale à la question raciale, point d'interrogation », qui sort en 2006 et qui s'ouvre dans l'introduction sur justement cette prise de conscience, qu'en tout cas, eux, ils racontent, une prise de conscience à la faveur des événements de 2005. Alors, il y a des formulations peut-être un peu étonnantes, sinon malheureuses. Enfin, il me semble qu'ils disent qu'à ce moment-là, la société française a découvert l'existence des discriminations raciales. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est sûr que ce moment-là, en France, ça fait bouger beaucoup de choses, et ça fait bouger beaucoup de choses dans le milieu militant, ça fait bouger beaucoup de choses probablement dans la société française, mais aussi du coup dans la recherche. Mais c'est vrai que quand on fait, on essaie de faire un peu cette histoire dans le bouquin, et on dit beaucoup plus de choses, en l'occurrence du lien entre le mouvement des droits civiques, le mouvement du féminisme noir aux États-Unis, avec la production états-unienne, parce que cette histoire, quelque part, elle a été faite aux États-Unis. Enfin, il y a beaucoup de production qui revient sur ces allers-retours entre la production militante et la production scientifique dans l'élaboration d'une pensée critique de la race, mais aussi évidemment dans l'élaboration d'une pensée de l'intersectionnalité qui est intrinsèquement liée aux mouvements sociaux. Cette histoire, elle a été moins faite en France. Et je pense, et on pense toutes les deux, que ce serait intéressant de la faire. Et que ce serait intéressant aussi de discuter avec des acteurs et actrices des mouvements antiracistes pour qu'on, justement, on arrive à retracer peut-être un peu plus précisément quels ont été les liens d'influence réciproque entre les milieux militants antiracistes et la production scientifique. Parce qu'il est certain qu'il y a des influences réciproques. Il est certain aussi que la montée en puissance de la question de l'antiracisme, qu'on dit antiracisme politique, dans les dernières années en France, a eu aussi un effet de pousser quelque part les chercheurs à se saisir de ces enjeux. Mais ne serait-ce que parce qu'en fait, les étudiants et étudiantes qui sont dans nos amphis sont aussi celles et ceux qui se mobilisent dans les mouvements sociaux et qui du coup arrivent avec des questions et nous interpellent et utilisent des termes qui n'étaient pas utilisés il y a même une petite dizaine d'années, le terme racisé, la manière dont il est vraiment entré dans le langage militant dans une certaine partie, évidemment, du milieu militant antiraciste, ça dit quand même quelque chose de fort, parce que c'est un terme qui vient des sciences sociales. C'est un terme qui, pour le coup, vient directement de collègue Guillaumin. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas un terme qui vient des États-Unis. Que cette critique de l'importation états-unienne, elle est aussi beaucoup faite sur les mouvements sociaux qui s'inspireraient de ce qui est fait aux États-Unis. En l'occurrence, il n'y a même pas de traduction anglaise du terme racisé. Donc là, on est sur quelque chose de très français. Et à la fois, du coup, il y a une appropriation par les milieux militants d'un vocabulaire qui vient des sciences sociales, et à la fois, je pense que cette appropriation-là et la vigueur avec laquelle c'est approprié, eh ben, ça pousse les chercheurs et les chercheuses que nous sommes à développer des recherches en ce sens. Parce qu'on voit bien que quelque chose se passe, parce qu'on voit bien que des questions se posent et que la société bouge, et que ben, nous, sociologues, notre travail, c'est quand même d'analyser la société et à quel point elle bouge, justement, ou à quel point elle ne bouge pas, peut-être. Mais...
Ensuite, c'est une histoire qui est compliquée à mener pour différentes raisons, précisément la première est qu'il faut rendre compte d'influences réciproques, dans le sens où il faudrait rendre compte de tout ce que les sciences sociales doivent aux mouvements sociaux, qui ont agi comme des aiguillons et comme vraiment des forces mises à l'agenda scientifique de certaines questions sociales, et également ce que les mouvements sociaux empruntent aux sciences sociales. Donc ce terme racisé en est un bon exemple, mais disons que le détour par l'histoire qui a déjà été faite, qui a déjà été conduite aux États-Unis, donne un bon aperçu de la complexité de ces liens, dans le sens où ils sont pas toujours très apaisés non plus. Et c'est vrai que y a cet exemple de ce grand livre Black Bourgeoisie, donc la bourgeoisie noire, qui d'ailleurs a été publié en français avant d'être publié en anglais, et qui a été écrit par Franklin Frazier, et qui a été très mal reçu par une partie du mouvement antiraciste aux États-Unis, qui s'est senti attaqué en fait par les thèses de Frazier. C'est un peu la même chose sur le mouvement de la critical race theory, qui était aussi une critique de ce que toute une frange du mouvement antiraciste états-unien, du mouvement des droits civiques, pensait pouvoir acquérir par le droit. Donc il y a des rapports qui sont mutuellement enrichissants, ça c'est sûr, mais il y a aussi des formes de concurrence discursive aussi, de concurrence politique des fois, entre les militants et les scientifiques. Sachant que ni les militants ni les scientifiques ne sont évidemment des blocs respectivement.
Ouais, et puis il y a évidemment des questions forcément qui se posent peut-être de rapport de force, quoi, et de la question aussi de la dette sûrement qu'ont les chercheurs et chercheuses en sciences sociales envers les milieux militants, et une dette qui n'est pas toujours reconnue, et du coup des phénomènes d'appropriation d'une pensée militante qui est produite, et qui de théories qui sont produites, et vraiment d'une réflexion qui est menée dans des espaces militants et qui est ensuite appropriée par des chercheurs et des chercheuses qui, il faut le dire, font leur carrière là-dessus. Et donc, du coup, forcément, nous, c'est notre métier. On gagne de l'argent en faisant ça. En tout cas, on espère gagner de l'argent en faisant ça. Donc forcément, ça nous positionne aussi dans quelque chose de très particulier. Et sûrement que les chercheurs et chercheuses reconnaissent trop peu la dette qu'ils ont envers les milieux militants. Ils la reconnaissent aussi sûrement trop peu parce que c'est aussi une critique qui nous est beaucoup faite quand on travaille sur des objets comme ceux-ci, sur la race, mais sur le genre aussi. On nous accuse beaucoup d'être plutôt des militants que des scientifiques. Alors, il y a sûrement des enjeux de distanciation vis-à-vis de certains milieux politiques qui sont nécessaires pour faire carrière. Et en même temps, ces enjeux de distanciation, ils peuvent probablement agacer certains et certaines dans les milieux politiques et militants. Et on comprend tout à fait pourquoi.
Alors, il y a un reproche qui est souvent fait aux études sur la race, particulièrement dans le contexte français, mais c'est quelque chose qui peut aussi émerger aux États-Unis, par exemple, qui est que la race ferait perdre de vue les effets de la classe sociale, ou qu'en fait, finalement, la race serait en quelque sorte assez souvent une illusion ou un voile qui masquerait la réalité de l'oppression ou de la domination de classe ou de l'exploitation de classe. Qu'est-ce qu'on peut répondre à partir de ce que l'on sait de la race, en particulier dans le contexte français ? Est-ce que la race, effectivement, est juste une modalité, en quelque sorte, de la classe, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient s'ajouter de l'extérieur à la classe? Comment on pense les rapports entre race et classe, entre rapports de race, rapports sociaux de race et rapports de classe?
C'est marrant, parce que cette question, souvent, je me dis, c'est drôle, on nous reproche à nous, du coup, de pousser un agenda politique. Alors qu'en fait, je pense que ce reproche-là, le fait que parler de race, ce serait oublier la classe, en fait, c'est précisément une discussion politique. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, en tout cas, elle vient d'une discussion politique qui est plus généralement sur, en fait, la discussion, quel est l'ennemi principal. Alors, il y a eu la modalité race contre genre, classe contre genre, pardon, d'abord, qui se posait, du coup, au moment, disons, de la deuxième vague féministe où on reprochait aux féministes de diviser la classe ouvrière. Donc là, on a la deuxième modalité du débat, quoi, qui est race contre classe, et que du coup, ben, on diviserait la classe ouvrière en mettant en gros en avant les divisions de race. Moi, la réponse, elle me paraît à la fois, je sais pas, elle me paraît assez simple dans le sens où bah, la réponse est à trouver dans ce concept qui a peut-être été très utilisé, donc un peu galvaudé, mais qui est l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'idée que, bah, en réalité, plusieurs rapports sociaux traversent la société. Et donc, à partir de là, on est tous et toutes positionnés à divers endroits de ces rapports sociaux. Mais à la fois, en fait. On est à la fois, quelque part, dans les rapports sociaux de classe, quelque part dans les rapports sociaux de sexe, et quelque part dans les rapports sociaux de race. Et probablement quelque part dans d'autres rapports sociaux, parce qu'en fait, ce triptyque, il épuise pas du tout les positions sociales des individus. Mais est-ce que parler de race, ça empêche de parler de classe? Ben, déjà, j'espère que non. Mais surtout, nous, ce qu'on dit, c'est que, en fait, prétendre que, par exemple, un ouvrier blanc et un ouvrier noir aujourd'hui en France auraient la même expérience sociale, c'est soit vivre dans une grotte, soit être malhonnête. Mais dans les deux cas, ça nous paraît quand même compliqué pour quelqu'un d'un temps soit peu informé sur ce qui se passe dans la société française aujourd'hui, de prétendre que cette expérience sociale, c'est la même. Donc à partir de là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécifique à la race. Et donc, ça veut dire que c'est juste que, évidemment, que la classe sociale détermine énormément de choses dans nos sociétés aujourd'hui, mais ça épuise pas l'explication des expériences sociales des gens, ça épuise pas l'explication de leur trajectoire sociale. Et que, en fait, y a des personnes qui sont non seulement issues de milieux ouvriers, mais qui sont en plus racialisées comme non-blanches dans la société. Et ça va faire que leurs expériences sociales vont être sensiblement différentes de celles qui sont racialisées comme blanches. Et de la même manière que, en réalité, si ça a épuisé la question, ben, les personnes racialisées comme noires ou arabes qui appartiennent aux classes supérieures, ben, quelque part, tout serait réglé pour elles, quoi. En l'occurrence, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes qu'on a montrent que la propension à déclarer des discriminations de type ethno-raciale croît avec la position sociale. Donc, voilà un peu la réponse que je ferais. Enfin, je trouve ça marrant de dire que de rajouter une dimension de l'expérience sociale des gens, ce serait minimiser une autre de ces dimensions. En l'occurrence, c'est pas parce que je considère que la race est importante pour comprendre la société dans laquelle on est et les positions individuelles des personnes dans la société dans laquelle on est que, par contre, je pense que le genre n'a pas d'importance. En l'occurrence, je suis assez bien placée pour savoir que le genre a beaucoup d'importance, mais que aussi, ben, les manières de se voir renvoyer à la féminité, par exemple, ben, elles vont juste pas être les mêmes selon qu'on est une femme racialisée comme blanche ou une femme racialisée comme non blanche. Mais elles vont aussi pas être les mêmes selon qu'on est une femme de classe supérieure et une femme de classe populaire. C'est juste que les choses, elles sont en fait tout le temps imbriquées les unes aux autres. Et nous, souvent, on me dit ça, on dit à nos étudiants, bah, être sociologue, c'est quelque part aussi bah, prendre une photo à un moment donné de la société pour l'analyser. Bah, j'ai l'impression que si on parle pas de race, c'est juste qu'on a mis un gros doigt au milieu de la photo et que juste cette photo est incomplète. Et donc, moi, nous, on veut compléter la photo, quoi.
Oui, je crois que l'essentiel de la réponse, c'est de dire que, en fait, la prise en compte de la race enrichit l'analyse de la classe. Et ça, c'est assez frappant, en fait, dans les ambitions très, très, très précoces, en fait, des sociologues, des scientifiques plus largement, qui vont théoriser la race et ses effets dans la société. Si on pense, par exemple, aux marxistes noirs aux États-Unis, qui ont quand même fait énormément pour le développement de la sociologie états-unienne. C'est vrai que quand on connaît cette littérature-là, dont une des figures les plus célèbres, d'ailleurs, n'est autre qu'Angela Davis elle-même, on ne peut qu'être surprise, quoi, de voir ce reproche-là fait. Ensuite, pour parler dans le contexte français, à partir d'études plus récentes, c'est vrai qu'on sait, sur la base de différentes enquêtes, alors Solène mentionnait des enquêtes quantitatives, il y a aussi des enquêtes qualitatives sur la façon dont la race sert la division du travail, y compris la division ouvrière ou la division du travail ouvrier. Je pense notamment au travail de Nicolas Jounin sur les chantiers de construction, qui est extrêmement riche. Il y a des travaux aussi sur la façon dont certaines représentations de docilité, donc c'est les travaux de Meslin sur la main-d'œuvre cambodgienne en France, comment est-ce que ces représentations-là servent la mise au travail, servent les technologies de discipline, en fait, capitalistes. Et ça, c'est hyper important pour comprendre les mondes professionnels aujourd'hui et aussi pour comprendre la condition ouvrière. Mais c'est vrai que... on est souvent tiré vers cette réponse par la façon dont la question, plus que la question, la façon dont la critique est adressée. C'est-à-dire, en fait, la condition ouvrière serait surdéterminée par la classe, et ensuite, il y aurait des petites différences. Mais c'est vrai que ce qui est important de laisser dans le paysage, ou de remettre dans le paysage du débat, c'est ce que rappelait Solène aussi sur la base de ces enquêtes quantitatives, c'est de l'échelle sociale et ce qui se passe dans les classes supérieures ou dans les classes dominantes. Moi, je trouve ça important, et c'est ce que je fais dans mes travaux, de m'intéresser à la racialisation des classes dominantes et à voir comment, par exemple, aux Émirats, quel que soit le niveau de richesse et même le niveau de diplôme, par ailleurs, des Émiriens, ils seront toujours assignés à cette figure du nouveau riche arabe qui va réserver l'authenticité bourgeoise à la bourgeoisie blanche. Et cette superposition de l'authenticité bourgeoise à la position blanche, ou à l'identité blanche, elle est super intéressante et elle permet bien de rappeler que, quel que soit le montant sur votre compte en banque, ça ne suffira pas à vous blanchir complètement et ça ne vous donnera pas les mêmes opportunités de vie non plus.
Alors peut-être pour finir, est-ce que la particularité du contexte français, bien marquée d'ailleurs récemment, ou il y a quelques années, par l'effacement du mot « race » dans la Constitution par les parlementaires, c'est pas que les catégories raciales sont omniprésentes, sinon d'ailleurs de plus en plus présentes dans le débat public avec des catégories qui sont en fait saturées de stéréotypes raciaux. Je sais pas, comme ça, je pense à la catégorie de racaille, mais parmi pas mal d'autres, racaille étant une catégorie politique en réalité qui a été promue par Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur il y a une quinzaine d'années. Et en même temps, donc cette omniprésence et en même temps l'interdiction presque faite de nommer les divisions raciales, les discriminations raciales, de les nommer explicitement sous une forme raciale. Ce qui désigne en fait un contexte discursif, politique, idéologique, assez radicalement en fait différent quand même des États-Unis par exemple, de ce point de vue-là. Pas tant sur le fait que ces sociétés sont ou non structurées d'un point de vue racial, et elles le sont, et nombre d'enquêtes le montrent, y compris sur des enquêtes comparatives qui montrent que la France se situe peut-être même sur un niveau plus élevé quantitativement du point de vue des discriminations par exemple à l'embauche qu'aux États-Unis et que bien d'autres sociétés occidentales. Mais du point de vue de la place de la race, justement, en tant que catégorie politique, catégorie de perception, d'appréciation, d'interprétation, etc. Comment on fait, du coup, dans ce contexte très précis pour aborder et pour faire avancer peut-être la question à la fois de la connaissance des divisions raciales, de la domination raciale, et en même temps, pour faire avancer un agenda antiraciste, là, sur un plan plus politique, puisqu'on l'a vu, c'est difficile de découpler en réalité, même si tout nous y incite, mais c'est difficile de découpler la question de l'analyse de la race et de politique en quelque sorte qui vise fondamentalement une forme de déracialisation, c'est-à-dire le fait que la race n'est plus d'effet, en tout cas d'effet inégalitaire dans les existences, en particulier de ceux et celles qui en subissent les effets négatifs, les racisés ou les non-blancs, selon les différentes catégories qu'on peut employer dans le débat en France.
Je pense que ta question, elle nous renvoie finalement à la conclusion d'ouvrage, ce qui tombe bien pour finir l'entretien, qu'on a décidé d'intituler « Refuser l'aveuglement volontaire ». Et c'est précisément une conclusion où on rappelle que c'est un sujet où il est particulièrement délicat de séparer complètement le registre scientifique du registre politique. Alors bien sûr, ce n'est pas un ouvrage militant, au sens strict, qu'on a écrit, notamment parce qu'on ne se positionne pas en tant qu'experte, ni en tant qu'autrice d'un mode d'emploi ou d'un agenda politique. En revanche, on reconnaît qu'il est même rhétoriquement impossible de nommer les inégalités raciales sans souhaiter leur disparition. Et c'est aussi pour ça qu'on décide d'ancrer l'ouvrage dans un registre qui est cristallisé par l'expression « effets sociaux du racisme », qu'on décide d'utiliser à plein de moments dans l'ouvrage, et qui est une façon, bien entendu, de rester pédagogique et de toujours rappeler ce lien de la race à une construction sociale, etc., mais aussi de souligner cette dimension normative, qui est en fait inexorable. À partir du moment où on nomme la race comme construction sociale, pour nous, c'est inséparable, finalement, d'une forme de militantisme égalitaire, bien entendu.
Ouais, il y a cette idée que, en fait, si l'horizon, c'est, disons, la déracialisation, en tout cas, l'horizon, ce serait que, en gros, les catégories raciales aient plus de sens, et donc aient plus de pertinence pour la société, la question, c'est comment on y arrive. La proposition des parlementaires français, c'est venez, on supprime le mot, et comme ça, on n'en parle plus et c'est réglé. On n'est pas les seuls, hein, beaucoup de gens, beaucoup de collègues notamment l'ont dit. C'est assez original de penser qu'en supprimant le mot race, on allait supprimer les effets du racisme. Mais non seulement c'est pas le cas, mais peut-être même que c'est encore pire, en fait. Et les ressorts de l'aveuglement volontaire, les ressorts de ce silence-là, c'est peut-être précisément ce qui sous-tend le fait de maintenir la domination telle qu'elle est. Et en effet, je pense que nous, on est prise dans une situation qui est un peu paradoxale, mais qui n'est pas propre à la question raciale, qui est de dire on va devoir passer par l'utilisation de ces catégories pour, en fait... obtenir une situation d'égalité et de justice sociale. Mais on ne voit pas comment on pourrait rétablir une situation d'égalité sans nommer, en fait, les choses, sans nommer les groupes qui sont défavorisés et sans, du coup, essayer de mettre en place des politiques de réparation, redistribution, etc. C'est-à-dire de réparer, quelque part... justement, les effets sociaux du racisme. Et pour ça, oui, nous, on plaide pour sortir de l'aveuglement volontaire et donc pour parler des choses. Et ça, c'est vrai que, pour revenir à la question sur les liens avec les milieux militants les mouvements antiracistes, c'est sûr que... je pense qu'on est tous les deux d'accord pour penser que c'est plutôt une bonne chose, en fait, qu'une séquence se soit ouverte en France dans laquelle il devient possible de nommer les groupes, de se nommer soi-même et de revendiquer des choses au nom de son appartenance à un groupe. Et pas d'un point de vue essentialiste, mais en disant, en fait, le fait que vous croyez qu'on appartient effectivement à ce groupe, ça a des effets réels sur nos vies. Et donc, à partir de là... il va peut-être falloir prendre en compte notre existence pour aussi réparer à quel point ces existences sont marquées par les inégalités, la violence, la stigmatisation, les discriminations. Mais donc, on ne fera pas disparaître le racisme en effaçant la race. On ne fera pas non plus disparaître le racisme en la nommant. Et ça, peut-être que c'est, pour finir là-dessus... Quelque chose qu'il faut aussi dire. Aux États-Unis, on nomme la race, on la nomme beaucoup, et il y a des politiques de redistribution qui sont faites, et pour autant, il y a énormément de crimes policiers, il y a une surreprésentation incroyable des minorités raciales dans les prisons, etc. Donc ça ne règle pas les choses. Et quelque part, ce n'est pas non plus notre vocation à nous en tant que sociologues. On va pas, en tout cas, ce serait extrêmement immodeste de penser que on allait régler les choses en posant des mots et en analysant les choses et en écrivant des livres. Mais par contre, on est convaincu que nommer les choses et nommer la domination, ça peut peut-être fournir des outils pour la combattre.
En gros, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant.
Exactement.
Bah, merci beaucoup Solène Brun et Claire Kosker pour cette discussion. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de Contre-son sur Spectre, spectremedia.org. Merci. Spectre.